Je vais essayer dans l'intervention que je vais vous proposer de poser ou de formuler à ma manière le problème John Locke et ensuite d'essayer de regarder en quoi ça pourrait nous aider à esquisser ce que j'appellerais la question de la législation chez Locke, qui sera le thème central ou le fil rouge de mon propos. Dans le cadre d'un travail plus large que j'essaye de conduire sur la question de la législation dans la pensée politique. Si je devais poser, et c'est donc une position nécessairement subjective, j'essaye pas de la poser dans l'abstrait, le problème Locke, je dirais que le Locke des traités de droit constitutionnel est celui qui était censé décrire la manière dont la société, préalablement autorisé par les individus, se dote d'un gouvernement et la manière dont ce gouvernement est structuré. Le Locke de nos contemporains plus immédiats, notamment en théorie politique, et je pense ici à quelqu'un dont je vais parler sans en parler pendant toute la longueur de cette intervention, qui est James Tully, c'est celui qui a pensé le phénomène symétrique, par lequel le gouvernement exerce son autorité sur la société et sur les individus. Donc un mouvement ascendant de l'autorisation politique du gouvernement par les gouvernés, et puis un processus descendant par lequel les gouvernants dirigent les conduites des gouvernés. Qu'est-ce qui permet la mise en cohérence de ces deux points de vue qui correspondent grosso modo à deux corpus? D'un côté, le corpus des écrits politique de Locke, avec au cœur le Second Traité, mais aussi la Constitution de la Caroline, mais aussi les textes plus en général plus brefs, plus contextualisés et souvent liés à sa carrière de commis de l'État sur comment est-ce qu'on gouverne une colonie, comment est-ce qu'on fait de la politique monétaire dans l'Angleterre des années 1680-90, comment est-ce qu'on gère la pauvreté à la toute fin du XVIIe siècle. De l'autre côté, un autre corpus que je bâtirais arbitrairement de la manière suivante, c'est-à-dire les écrits épistémologiques et les écrits sur l'éducation. Et il me semble que ce qui permet la mise en cohérence de ce mouvement ascendant de l'autorisation politique et de ce processus descendant du gouvernement des conduites, c'est justement quelque chose qui se passe, il y a une partie qui s'en déroule dans le Second Traité, par exemple, mais il y a aussi un mouvement interne aux écrits d'épistémologie et d'éducation, qui sont en partie aussi sur l'épistémologie, d'ailleurs. C'est un processus plus secret, plus discret, à l'intérieur duquel il y a aussi un mouvement ascendant, c'est celui par lequel les individus disposant de leur raison naturelle consentent, donnent leur assent à des propositions dont Locke dit qu'elles sont vraisemblables, c'est un caractère de probability, à des questions de fait. Je donne mon consentement à une proposition probable sur des faits. Et puis un mouvement descendant, puisque Locke nous dit lui-même que le but de sa, par exemple, de l'essai concernant l'entendement humain, c'est la conduite de nos vies et, je vais garder le mot anglais exprès, le management de nos affaires terrestres. La conduite de nos vies et le management de nos affaires terrestres. C'est pas, je le redirai peut-être tout à l'heure, mais c'est pas un traité d'épistémologie générale, c'est pratiquement, on pourrait le dire dans le vocabulaire kantien, une épistémologie du point de vue pragmatique. C'est une épistémologie du point de vue politique. Il s'agit de dire vraiment comment on se conduit, comment on est conduit et comment notre vie terrestre telle qu'elle a été voulue par Dieu va être gérée dans les limites de nos capacités de connaissance. Et la détermination des limites de nos capacités de connaissance à cette finalité pratique, Locke ne dit jamais qu'il écrit un traité d'épistémologie générale. Il oublie assez rapidement le début, on n'en parle plus tellement, mais c'est comme ça que c'est mis sur des rails. Bâtit une théorie de l'action qui est justement une pragmatique ou une politique du désir, c'est-à-dire que L'empirisme lockien, c'est la manière dont, et d'ailleurs ça lui sera reproché par des empiristes peut-être plus conséquents au siècle d'après, c'est l'empirisme des désirs et d'abord du fait que nos désirs ne sont pas satisfaits et qu'on est dans ce que Locke appelle l'uneasiness, le désagrément. Ce n'est pas la souffrance directement parlant, si je puis dire, c'est d'abord quelque chose de plus nuancé qu'il appelle l'uneasiness. Et ça engendre un désir qui détermine notre volonté en vue de faire cesser le désagrément correspondant. De sorte que la politique moderne du bonheur en Europe, elle naît d'abord sur l'absence de bonheur, mais sur un truc assez flou, qui est qu'on n'est pas très content de là où on n'est pas très content, on n'est pas très content de ce qu'on ressent. C'est pas qu'on souffre toujours à proprement parler, comme soit chez Hobbes ou ensuite chez Bentham. C'est cette uneasiness, que d'ailleurs, le vocabulaire que Bentham reprochera amèrement, violemment à Locke. Et tout le reste en résulte, c'est-à-dire que le mouvement lockien par excellence, même s'il dit lui-même qu'il est extrêmement minoritaire en faisant ce geste-là, en opposition, dit-il, avec l'assentiment général de l'humanité, c'est que c'est ce qui détermine la volonté, c'est pas le souverain bien aristotélicien, c'est un processus qui articule nos désirs. C'est une articulation des désirs avec deux opérations de base qui sont la suspension, qui est la liberté même chez Locke, la suspension des associations d'idées désirantes, et un autre processus qui est un processus de pondération. Je pèse mes différents désirs pour savoir celui que je vais satisfaire en premier, la voie que je vais trouver pour la satisfaction de ce premier désir. Et ça, cette sorte de théorie de l'action, elle est évidemment intéressante quand on pense à la théorie lockienne, à la théorie du gouvernement de Locke. Les hommes peuvent être guidés par un législateur divin ou humain parce que celui-là associe dans leur esprit tel comportement avec une certaine idée de souffrance et donc les en détourne. Au fond, le petit mérite que je trouve à cette manière de poser le problème de John Locke, c'est que ça met à peu près en place toutes les composantes du patchwork lockien, à peu près tous les mini corpus qui composent le méga, le macro corpus lockien. En d'autres termes, le processus d'autorisation politique se suffit pas à lui-même, il n'est pas défini uniquement dans des termes purement politique, et inversement, le processus de gouvernement des conduites se suffit pas, c'est pas uniquement de la technocratie dans le sens moderne, c'est des êtres désirants et quelqu'un qui les regarde de l'extérieur, qui sait qu'ils sont désirants et qui sait jouer sur les opérations désirantes qui sont à l'œuvre chez eux. Ce que je vais essayer de dire à partir de là, c'est qu'il me semble que c'est intéressant de raisonner en ces termes pour comprendre la place qu'occupe Locke dans la construction de l'idée moderne de législation. Et j'essaierai de justifier tout à l'heure pourquoi je dis législation et pas loi, parce que j'aimerais bien introduire une différence, en tout cas stipulative, comme disent mes collègues nantérois, entre les deux. La première chose à faire, et j'ai été frappé parce qu'on ne s'est pas concerté, Amnon a à peu près fait la même chose, c'est de mettre en relation Hobbes et Locke, ce qui est très banal, on n'est pas les inventeurs de ces traits communs, mais aussi commun que ça soit, ce n'est pas nécessairement inutile. Il a fallu dans l'histoire des États européens un souverain conçu sur le registre hobbesien pour que s'implante tant bien que mal une forme de gouvernement ou un gouvernant poursuivant ce que Locke appellera, et ça c'est bien à lui, la vie, la liberté, les biens, l'idée générique de propriété, dit Jean-Fabien Smith. Et en adoptant à cette fin des lois qui sont adaptées. De sorte que si je devais poser le rapport entre Hobbes et Locke de ce point de vue-là, du point de vue de la législation, je le dirais très banalement en termes de dépassement, trait d'union-conservation, ou comme dirait mon voisin de droite, Aufhebung. C'est-à-dire que même dans le passage que tu citais dans le premier traité, et très largement dans le second traité, dans trois ou quatre paragraphes du second traité, John Locke prend la loi hobbesienne, dont il dit qu'elle est cette loi qu'elle est établie, posée, mais il ajoute ensuite reçue et consentie, ce qui est plus à lui, mais la loi settled on standing, la loi du souverain qui a besoin de la manifestation de volonté du dit souverain. Et dans le paragraphe 81, il y a une chose qui est un sous-texte extrêmement clair, c'est les signes adéquats de la volonté du souverain. Il ne dit pas adéquate, mais il dit signs. Cette loi hobbesienne, elle est une sorte de socle qui est nécessaire pour gouverner les hommes selon la manière lockéenne. Mais il faut quelque chose, il faut un petit twist. Et le petit twist, à mon avis, se situe dans la manière dont on va jouer après Hobbes sur la fameuse maxime c'est l'autorité et pas la vérité qui fait le droit. Auctoritas non veritas facit legem. La manière très, très schématique dont je dirais ça, c'est que cette maxime-là, si on disait seulement auctoritas facit legem, ça dérangerait personne, aucun d'entre nous, et on est des modernes en ça. Nous sommes en désaccord avec l'idée qu'il faut de l'autorité pour faire de la loi, c'est-à-dire qu'en substance, c'est un acte de volonté. Ce qui va gêner beaucoup de gens après la mort de Hobbes, vous avez vécu assez longtemps, mais disons après le Léviathan, un peu plus tôt que ça, c'est plutôt non veritas. C'est-à-dire l'idée d'exclure la vérité de l'opération législative et de l'opération des actes de souveraineté. J'aurais même tendance à dire que ces deux petits mots dans la formule hobbesienne, non veritas, c'est inacceptable. Et ce qui fait la politique morale des modernes, c'est justement d'accepter auctoritas, mais de pas d'accepter l'affirmation que c'est l'autorité qui fait le droit, mais de ne pas accepter l'exclusion de la vérité, et de ne pas accepter l'exclusion de la rationalité. Et Locke est probablement l'un des premiers à avoir identifié cela, parce que c'est lui qui constate que si on veut quand même qu'il y ait de la rationalité dans l'opération législative, qu'il y ait de la vérité dans tout ça, reste à refonder la vérité pour la rendre politiquement et juridiquement utilisable, opérationnelle, l'opérationnaliser, comme disent parfois les philosophes. Et ça me conduit à justement essayer de cerner la politique de Locke et à l'inscrire dans ce que Reinhard Koselleck, le grand historien allemand, avait appelé l'épanouissement du monde moral. Locke je pense, quand même une grande différence avec Hobbes, justement, c'est cette idée d'un élargissement des termes de la moralité et un épanouissement de la. Du monde moral des hommes, du monde politique dans lequel les hommes vivent en commun comme un monde moral. L'idée de la du souverain, là, ce qui est inacceptable, c'est l'idée hobbesienne du souverain qui pourrait bien être un tyran et dont on s'accommode qu'il en soit un. Et là encore, on trouve absolument dans Locke tout ce qu'on cherche en la matière, en termes d'un art de gouverner qui est en même temps une politique mondaine, une politique, enfin, je veux dire, au sens de terrestre, et puis une politique du bonheur. Là encore, si Dieu a limité notre capacité de connaissance, il nous en a quand même donné suffisamment, dit Locke, dit-il, et là on a des formules extraordinaires qui mériteraient de longs commentaires, notre état et nos besoins. On a presque la société civile hégélienne comme système de besoins, et les convenances de notre vie. Et continue Locke, la connaissance de la vertu. Et les formules sont fascinantes. Conveniences of life, provisions for this life, what may be of use to us. Il y a une orientation pragmatique qui est très marquée, qui est très forte. Au total, le projet, par exemple, de l'essai concernant l'entendement humain, mais aussi des derniers des écrits posthumes de Locke en matière de conduite humaine, c'est que ce qu'on a à connaître et ce dont il nous parle, c'est ce qui concerne notre conduite, c'est ce qui concerne la manière dont nous conduisons. Notre affaire, dit-il, n'est pas de tout savoir, c'est de savoir ce qui concerne notre conduite. Our business here is not to know all things, but those which concern our conduct. Donc tout ça est probablement, dis-je là quelque chose de banal, mais la théorie de la connaissance obéit à un projet moral, et le projet moral ne se conçoit pas sans d'évidentes implications politiques. C'est vraiment le territoire, c'est le domaine de l'homme, parler comme Castoriadis. C'est un territoire qui inclut, où il est extraordinairement difficile de faire juste de l'épistémologie, juste de la théorie politique ou juste de la philosophie morale. Ça a du mal à marcher. Reste que savoir ce qui s'y passe sur ce domaine de l'homme tel que cartographié par Locke n'est pas simple. Et que la nature du projet est rien moins que claire. Par exemple, Est-ce qu'on doit penser, comme James Tully, que la pensée morale de Locke est une attaque contre la conscience, un combat contre la conscience, c'est-à-dire qu'on met de côté le problème de la conscience et on gouverne les hommes de l'extérieur? Ou bien, ce qui semble être la position de Reinhard Koselleck, tout l'inverse, ce que j'appellerais une politisation du fort intérieur. Koselleck dit « Locke a investi politiquement le fort intérieur ». En tout état de cause, il faut avoir son idée là-dessus si on veut comprendre les trois lois chez Locke, la loi philosophique, etc., etc., la loi de Dieu et la loi morale. C'est pas trivial. Au bout du compte, ce que j'appelais tout à l'heure le mouvement ascendant d'autorisation et le processus descendant de gouvernement des conduites est dépendant de la nature du mécanisme qui est mis en place à cet endroit-là. L'individu moderne est celui, comme Locke le comprend, qu'il faut persuader parce que son assentiment est indispensable à l'opération de gouvernement. Est-ce qu'on le contraint massivement en faisant ça, ou alors est-ce qu'il est d'accord et est-ce que tout ça ne procède que de son acceptation? Les deux, c'est exactement. Il y a quelques jours, un des fondateurs de Facebook a décidé d'abandonner son compte Facebook parce qu'il a dit c'est comme de la cocaïne. J'arrête moi-même mon compte Facebook parce que ce que j'ai inventé, c'est la nouvelle cocaïne de notre temps. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire, nous consentons à des limites. Nous consentons à être conduits, nous consentons à être gouvernés, à ce que ce soit nos désirs qui soient là, à l'origine même de notre aliénation. Est-ce que Locke a quelque chose à nous dire sur, si on se déplace du terrain de l'histoire des philosophiques ou de l'histoire des idées vers l'histoire des pratiques ou l'histoire de l'État en général, sur comment dirais-je, les actions gouvernementales concrètes? Je pense que c'était ça l'idée chez James Tully. Dans ses premiers écrits, quand il écrit sur Locke au début de sa carrière, il ne s'intéresse pas tellement à ça, et puis il se met à lire Foucault. Et ayant lu Foucault, il y a cette idée du gouvernement, ce fameux article sur le gouvernement des conduites. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est opérationnel? Je pose la question, je n'ai pas nécessairement la réponse. Je me demande si parfois il n'y a pas une surlecture de ce que veut, de ce que fait Locke chez un auteur comme Tully. Et j'aurais une certaine gêne, enfin je me poserais des questions sur le fait d'utiliser Michel Foucault pour ça. Je vais vous dire pourquoi, pas parce que c'est pas intéressant de s'intéresser au gouvernement des conduites, mais parce que précisément, à supposer qu'il faille le faire, je pense que Locke est la personne même qui nous montre qu'il faut intégrer législation et discipline, ou législation et gouvernementalité, et que mettre de côté tout ce qui est macro, comme le fait Michel Foucault, se concentrer soit sur la gouvernementalité, soit sur les disciplines, c'est-à-dire sur la sphère du micro, du micro-pouvoir, je ne suis pas absolument certain que ça opère. Et justement, Locke est la personne qui nous permet de le comprendre. Je pense qu'il y a une intégration très forte entre le niveau du législatif et le niveau des conduites individuelles, et que d'essayer de séparer les deux a quelque chose de gênant. Ça peut avoir quelque chose de gênant pour l'historien des idées qui cherche à comprendre Locke, parce qu'à mon avis, il faut absolument intégrer les deux. Ça peut avoir quelque chose de gênant pour l'historien de l'État qui essaye de comprendre, j'en sais rien, moi, les règlements disciplinaires des hôpitaux au XVIIe siècle, parce que, par exemple, pour faire le règlement disciplinaire organisant l'hôpital de Paris dans les années 1660, il a fallu une dizaine de lois royales et d'ordonnances royales. En général, une masse de législation au sens le plus hard du terme, au sens le plus souverain du terme, pour permettre, au niveau des micro-pouvoirs de Foucault, pour permettre les disciplines, pour permettre les fameux micro-pouvoirs. De sorte que je trouve que l'intérêt de Locke, ce serait précisément d'être à la fois la personne qui nous a aidé à penser la législation et le penseur dans le cadre de pensée duquel on peut voir comment on va, sans solution de continuité, de la souveraineté bodinienne au micro-pouvoir foucauldien, parce que je pense que si on doit les penser, c'est plutôt sans solution de continuité. Autrement dit, mais c'est peut-être pas un autrement dit qui va de soi, on en arriverait à une idée qui n'est claire ni pour les lecteurs de Locke ni pour nous-mêmes. C'est que la garantie et la promotion de la triade lockienne, vie, liberté, propriété, et la garantie et la promotion de ces droits naturels au sens lockien, ou tout simplement de l'objectif de bien-être de la politique moderne, du welfarisme politique, suppose une intervention gouvernementale massive. Et je trouve que c'est l'intérêt de Locke de ne pas l'interdire. C'est-à-dire que pour avoir la protection des droits si chers au libéralisme politique du 19e siècle, il ne faut pas moins d'État, il en faut massivement plus. Et ça tombe bien, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la garantie des droits du cher aux libéraux classiques n'a pas supposé un retrait ou un retranchement de l'autorité politique, ça a supposé une mutation de ses voies et moyens et une production législative, à mon avis, tout à fait intense. Pour le dire en d'autres termes, il y a un hiatus entre la table de valeurs du libéralisme classique et le projet de gouvernement que le dit libéralisme réfute comme étant liberticide. Et un texte central de ce point de vue-là, c'est le texte de Constant qui est le commentaire sur l'ouvrage de Filangieri, où il s'en prend au pauvre Filangieri qui a dit qu'il fallait beaucoup de lois pour faire la société moderne, et celui qui a raison, même si c'est un bien moindre auteur que Constant, c'est peut-être Filangieri. Comme dit Paul Venn à un autre sujet, pourquoi se mettre dans des états pareils? Pourquoi Constant s'en prend-il au pauvre Filangieri, en plus en attaquant un tout petit bout de la pensée de cet auteur-là? C'est pas une question inintéressante. Il y a dans tout ce que j'ai décrit là à grands traits une transformation du concept du politique, dont à mon avis le premier lecteur, le premier interprète majeur, c'est Locke lui-même. Dans un texte, un passage un petit peu connu des spécialistes de Locke, qui est un projet de lettre de 1697, où il dit « Je regarde la vraie politique comme une partie de la philosophie morale, laquelle n'est rien d'autre que l'art de bien conduire les hommes en société et de soutenir une communauté entre ceux vivant ensemble. » À peu près tout est dit dans ce passage-là. Et en particulier, le fait que cette mutation de ce qu'il appelle la vraie politique a vocation à changer l'idée même des buts de l'action gouvernementale. Parce que bientôt, la vie ne serait plus seulement préservée, comme chez Hobbes, elle serait améliorée dans toutes ses facettes à travers les idées de bonheur ou de bien-être. On passerait même du bien-être à ce que Foucault appelle le mieux-être. Qu'il ait lu ou non, il y a des passages il y a un passage assez cocasse chez Kosellek où Kosellek dit que toute la bourgeoisie européenne a eu John Locke sur sa table de chevet. Ce que j'ai toujours trouvé drôlatique parce que le point de départ, c'est que la bourgeoisie européenne ne lit pas. Mais ça a été aussi redit par Marx qui fait voilà de Locke le fondateur de la, au fond, qu'on ait lu, que tout ce monde-là ait lu ou non Locke, peu importe d'ailleurs, puisque c'est avant tout Locke qui a su lire en lui, l'attitude du législateur moderne elle est fondamentalement empiriste. C'est d'où l'importance de Locke dans tout ça, c'est-à-dire au fond. Avant, il va y avoir tout au long de la modernité, par exemple, des lois sur les pauvres, à partir du XVIe siècle en Angleterre, jusqu'au XIXe et même et même à vendredi dernier. Tout le monde en parle de la même manière, et le premier à développer ce format pour en parler, c'est justement Locke lui-même. À travers une formule qui est toujours à peu près la même, insister sur l'irrationalité des comportements, insister sur le fait que c'est des comportements moralement fautifs et qui ont vocation à être réformés. Donc une insistance sur l'importance de discipline pour réguler les comportements, la mise en évidence de régularité empirique, ce qui deviendra chez Bentham l'invention de la statistique, et enfin l'insistance sur la loi comme outil de mise en place de l'univers social régulé et institutionnalisé. Il y a de la loi là-dedans, il n'est pas possible de l'en exclure. Si on a le problème des pauvres, on fait pas d'abord, on va faire des maisons pour les pauvres, on va faire des disciplines et des micro-pouvoirs, mais on va le faire avec de la loi. Et écarter le souverain de cette opération-là, ça, c'est pas ce que nous disent les sources, comme disent les historiens. Tu as parlé de l'humanité de Locke. Moi, je serais un peu anti-humaniste dans cette affaire-là. C'est-à-dire, je trouve que il y a bien là un projet de promotion du bien-être, mais je trouve qu'il est relativement indifférent à ce qu'en notre temps on appellerait les exigences de la dignité de la personne humaine. Quand Locke fait un projet pour un organe dont il est un des principaux agents, qui est le Board of Trade, qu'est-ce qu'il propose de faire à propos des pauvres? Ben, de les prendre à l'âge de 3 ans, de les mettre au travail, parce que pour l'essentiel, en les mettant dans des maisons de correction qui sont en même temps des fabriques, des maisons d'industrie, parce que l'essentiel, c'est de leur apprendre dès l'enfance des habitudes de travail et leur inculquer, dit-il, des habitudes de vertu et d'industrie. Et quand il dit apprendre, le mot qu'il emploie, c'est to inure. Et en anglais, to inure, ça veut dire habituer à quelque chose de désagréable. Donc ça ne va pas être cool ce qui va se passer dans les maisons de correction lockiennes. Alors, qu'est-ce qui va se passer au XVIIIe siècle, le siècle des droits de l'homme et de l'amour du prochain? C'est que Bentham va juste repousser à 4 ans l'âge de l'entrée dans ces maisons des pauvres. Mais comme il est quand même relativement productiviste, on va les faire bosser 14 heures. Vous arrivez à 4 ans et vous travaillez 14 heures en usine pour améliorer votre vertu et votre industrie. Pour augmenter la somme, absolument. C'est tout à fait ça. Pierre Gattaz n'a rien inventé. Alors, je vais terminer sur quelques manières de formuler le problème John Locke. La première manière dont je le formulerai, donc pour les besoins qui étaient le mien, c'est que rien ne garantissait chez lui. Et ça serait démontrable en le lisant de plus près, et rien ne garantit chez nous encore, l'harmonie entre la garantie des droits et la promotion du bien-être. Nos sociétés qui vont dans les deux directions, ce n'est pas nécessairement des directions convergentes, je penserais même plutôt le contraire. Je pense que quand on pousse dans la direction de la protection des droits de l'homme, on est moins welfariste, et quand on n'est plus welfariste, on est moins droit de l'hommiste, si je puis dire. En d'autres termes, soyez kantien ou soyez lockien, mais choisissez. Ou alors vous êtes pris comme notre législateur dans de permanents dilemmes et de permanentes insatisfactions. Vous essayez constamment, comme disent les économistes, de maximiser deux variables en même temps, et rien ne prouve que ça va marcher. Ou alors, puisque rien ne prouve que ça va marcher, c'est le propos même des permanence oxymore de la politique moderne, de dire je vais promouvoir les droits de l'homme et en même temps je vais faire que le PIB augmente. Donc au fond, le problème de John Locke, c'est que Locke est à la fois le père fondateur d'un État qui est fondé sur des droits individuels inaliénables, le Locke libéral, et l'un des précurseurs d'un État administratif qui gouverne les conduites de ses administrés pour les faire œuvrer à l'accroissement du bien-être. Le problème ici, c'est celui de la compatibilité entre la reconnaissance des droits individuels abstraits et la construction d'un État paternaliste qui sait jouer des plaisirs et des peines pour diriger le comportement des individus. C'est pas immensément gênant concrètement, parce que c'est nous, c'est d'été fabula narratur, c'est de nous dont je parle ici. Et en réalité, c'est ça qui me frappe, c'est la cécité, la version Wikipédia des grands courants politiques, c'est soit de voir l'un, soit de voir l'autre, mais de jamais voir les deux en même temps. C'est-à-dire l'impression que soit on lit Mediapart, soit on écoute BFM Radio, mais qu'on n'arrive pas à faire les deux en même temps. Bah, en réalité, dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on a fait? On a promu les droits de l'homme en étant massivement welfariste et donc massivement paternaliste. Le penser est plus délicat. Mais peut-être que mieux comprendre Locke pourrait nous faire avancer dans cette direction. Ce que je dirais pour terminer, c'est qu'il ne faut pas non plus négliger les frontières, je ne dis pas les limites, mais les frontières du projet législatif de Locke. Quelles que soient les difficultés que pose la coexistence que je viens d'évoquer dans sa pensée, toute sa pensée passe largement au-dessus de la législation effective et de ses difficultés. Locke n'est pas un grand législateur, il n'écrit pas, il ne codifie pas comme le fera Bentham, il n'essaye même pas de rédiger sérieusement des lois, et il n'y a même pas vraiment d'équivalent chez lui de la réflexion sur la common law de Hobbes. Hobbes, quand il écrit le dialogue des common law, veut d'abord lire des lois, il le dit lui-même, il dit j'ai lu des lois, je ne les ai pas comprises. Locke, il pense la loi intellectuellement de manière approfondie, mais il ne se consacre pas, à ma connaissance, à une réflexion sur les lois, au sens du programme de travail incombant à un législateur rationnel ambitieux. La postérité a gardé de lui l'image du parrain de l'État constitutionnel, ce qui impliquait notamment, et je cite ici Jeremy Waldron, de lui attribuer l'origine de l'idée de législature au pouvoir limité et de l'idée de droit naturel contre le législateur, fermez les guillemets, mais nul n'a pensé faire de lui l'un des penseurs ayant anticipé notre prolifique état législatif. Au fond, quel que soit l'apport de Locke à nos réflexions sur ces questions-là, il faut tout de même le laisser dans l'univers de pensée et dans le moment de l'esprit, si je puis dire, qui était le sien. Il reste très fondationaliste. Et ça, de ce point de vue-là, il reste proche de Hobbes. C'est-à-dire il fait évoluer, il détourne la manière hobbesienne de poser la question dans un sens rationaliste, même s'il a une philosophie du droit et de la loi qui est volontariste, mais ce n'est pas incompatible chez lui. Mais il s'agit toujours de réfléchir aux fondations de l'État. Il ne s'agit pas de penser l'État au sens du XVIIIe siècle comme un État opérationnel, producteur de telle ou telle politique ou d'abondants projets de législation comme il y en aura au XVIIIe siècle. Je vous remercie.